Le monde est un campus
avec Ariadna Bocos.
Donc je suis née en Bogota, Colombie, en 1979. Bogota, c'est à 2635 mètres d'altitude. C'est un endroit sur la cordillère des Andes où il fait plus ou moins froid. Mais très tôt, vers 10 ans, je suis partie vivre à Cali avec ma mère. Ouais. C'est une ville plus chaude que Bogota et elle est très reconnue pour la salsa. C'est la capitale de la salsa, pour les Colombiens.
Comment se sont passées vos études? Est-ce que vous avez fait toutes vos études à Cali?
J'ai bougé beaucoup. En fait, j'ai fait mes études de collège, de lycée et primaire en 18 différentes écoles. Je n'ai vraiment eu de mal pour avoir une stabilité. J'ai beaucoup bougé. J'ai fait 3 ans aux États-Unis. La partie du lycée, je l'ai fait aux États-Unis. Et après, je suis retournée en Colombie. C'est comme ça que j'ai obtenu mon bac.
Et pourquoi est-ce que vous avez autant bougé?
C'était mon père et ma mère, parce que c'était des choses personnelles. Disons qu'ils sont divorcés, donc il fallait être à Bogota, après il était à Cali, après ici et là. Et après, c'était aussi la situation de la Colombie qui a amené mon père, je parle de 1994, qui a fait que mon père préfère que j'aille vivre aux États-Unis. J'avais de la famille là-bas et donc je suis partie. Parce que c'est une époque qu'à Cali, il y avait beaucoup de trafic de drogue et de narcotrafiquants. Et mon père, plus ou moins pour m'épargner de cette ambiance compliquée dans mon quartier aussi, donc mon père, il a décidé de m'envoyer faire les études tout d'abord aux États-Unis.
Oui. Et comment est-ce que vous avez vécu ce séjour aux États-Unis?
C'est ambivalent et contrasté parce qu'en fait, j'étais avec deux tantes. Une tante qui venait d'émigrer aux États-Unis et qui n'avait pas d'argent. Donc j'ai connu plus ou moins qu'est-ce qui était d'être pauvre latino-américain. Là, c'était à Los Angeles et après, j'étais à Tampa avec une tante qui, inversement, elle avait beaucoup d'argent. Donc, j'habitais avec elle et j'ai connu aussi le monde des riches latino-américains. Et donc, c'était quelque chose de très contrasté, disons, des modes de vie très différents, que ça m'a en partie forgé mon tempérament, mais qui, à la fin de tout, j'avais envie d'une chose, c'était de rentrer chez moi en Colombie.
Ce que vous avez fait à 18 ans?
Oui, ça c'était de 14 à 17 ans, ouais. Et après, je n'ai pas intégré tout de suite l'université. Je suis venue en France pour apprendre à parler le français en 1998. Mon père, donc, il voulait que j'apprenne plusieurs langues. Et après, je rentre en Colombie et en fait, j'étais passionnée par un sport que c'est le surfing. Et donc, je me mis à surfer avant de commencer à faire mes études. Et je commence donc mes études après 2 ou 3 ans, plus ou moins, de surf. Et donc, parce qu'il fallait absolument faire quelque chose. C'est-à-dire, j'étais fascinée. Même, j'avais la possibilité de continuer comme sportif de haut niveau, surtout en Colombie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui font du surf en Colombie. Mais le choix était de me trouver à 35 ans, déjà, n'avoir vraiment quelque chose dans la tête. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à la biologie marine pour être près de la mer et pouvoir conjuguer mes passions et mes intérêts intellectuels.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce sport, le surf?
L'effet de la glisse. Bon, il faut savoir qu'à cette époque en Colombie, il n'y avait pas de surfeurs. On était 5 sur presque 1000 km de côte pacifique. On n'avait pas de référence de surf, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne avant nous qui était notre mentor. C'est nous-mêmes qui avons commencé à construire et à fabriquer notre propre planche de surf avec des matériaux un peu rustiques. Et c'est comme ça qu'on commence à aller vers la mer. Parallèlement, à ce moment-là, j'intègre l'université en Colombie et je commence à faire des études en biologie. Là, donc, on est toujours dans un moment dans la Colombie, dans une situation très difficile au niveau politique, surtout dans la côte pacifique, où là où j'allais souvent, c'est un endroit stratégique pour le trafic de drogue. Bon, c'est de là que sortent beaucoup de bateaux chargés de cocaïne et de drogue vers l'extérieur. Et la côte, elle a commencé à devenir extrêmement dangereuse. Et j'ai eu 4 amis assassinés sur cet endroit-là. Ça, c'est une première, disons, la première cloche qui a sonné pour moi et pour ma famille. Et une autre chose qui est passée, qui est arrivée en Colombie, c'est que moi, je participais donc dans des travaux pour la population afro-colombienne pour aider à récupérer la terre. Et tous les étudiants qui ont participé dans ce projet pour la restitution des terres des afro-colombiens, il y a eu une liste noire qui est arrivé, signé par les paramilitaires de la Colombie, dans lequel ils nous recommandaient et ils nous invitaient fortement à quitter l'université au plus vite, parce que sinon ils allaient prendre des représailles. Donc c'est là qui vient ce choix de quitter la Colombie. Donc l'idée c'était faire biologie marine au Costa Rica, mais j'ai rencontré la plage au Costa Rica et les vagues et j'ai commencé à rester un peu trop près de la mer et moins près de l'université, ce qui n'a beaucoup plu à mon père qui finançait tous les voyages. Donc du coup, il me rappelle à l'ordre, il me dit que voilà, que j'ai deux choix, soit je continue ma vie et je fais surf toute ma vie au Costa Rica, ou soit il me soutient et on essaye de que je vienne en France pour recommencer mes études. Et j'étais prise dans mon premier choix à Bordeaux. Donc ça, c'était une grande joie de recevoir cette lettre de la France. En fait, quand je suis arrivée à l'ambassade de France, ils m'ont dit que moi, j'étais la première personne de la saison à être reçue dans une université française. Et donc, j'ai préparé mes valises et puis c'est comme ça que je suis arrivée en France.
Quel lien avait votre père avec la France ? Pourquoi cette idée de vouloir faire vos études en France ?
On a un lien avec la France depuis très longtemps. Il y a mon arrière-grand-père qui a fait ses études en France en 1904. Après, il est revenu en Colombie et il a fait beaucoup de choses pour le pays. Il y a mes grands-parents, mon oncle, qui ont été en asile politique en France aussi, dans les années 80. Et après, il y a eu donc mes cousines qui sont nées ici. Et il y avait cette approche à la France depuis très longtemps. Et en plus, que j'aimais beaucoup la langue française. J'étais un peu amoureuse de cette culture. Je ne peux pas dire que c'était facile. Ce n'est pas la question que c'est la culture française qui m'empêche de m'adapter. C'était plutôt moi qui me manquait beaucoup la Colombie.
Qu'est-ce qui vous manquait particulièrement de la Colombie ?
Surtout le climat. Le climat de Cali, l'après-midi, en fait, il fait toujours un petit chaleur avec une brise et les fruits. Les fruits et la chaleur. C'est ça qui me manquait. Non, je pense que c'est tout. Après, la musique et la danse, bon, on peut la faire ici, mais ce n'est pas le même type de fête que Colombie.
Alors, vous faites donc vos études à Bordeaux. À quel moment vous décidez de vous spécialiser plus en ethno-écologie ?
L'ethno-écologie, je ne connaissais pas. J'étais axée sur l'écologie, sur la biologie. En fait, je pars faire mon master à l'île de la Réunion, justement pour chercher un climat plus clément, mais être tout le temps en lien avec la France. L'ethno-écologie, c'est une approche disciplinaire pour comprendre les relations entre l'homme ou la société et la nature, qui consiste à intégrer les savoirs locaux pour comprendre la dynamique de l'environnement et la dynamique écologique des écosystèmes.
Et alors vous, très vite, vous décidez de vous intéresser à un écosystème en particulier qui est la mangrove.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est la mangrove ?
Donc la mangrove, c'est un écosystème à l'interface entre la terre et la mer. Et ce sont des grandes forêts de palétuviers, donc les arbres spécifiques de la mangrove, qui ne poussent que dans cette zone-là. Elles se trouvent notamment dans des milieux qui ont de l'eau douce et l'eau salée. Et donc ces milieux-là, la mangrove, je l'avais déjà vue en Colombie, sur la côte pacifique, quand j'étais en train de faire du surf.
Et vous décidez donc d'en faire aussi votre sujet de thèse.
Moi, mon idée, c'était de travailler sur la mangrove, sur les sociétés dans la mangrove, sur les savoirs locaux. Et les mangroves, c'est un environnement qui fournit énormément de services écologiques et il y a de nombreuses populations qui sont dépendantes de cet écosystème pour leur survie. Et donc, je voulais travailler là-dedans et je voulais explorer les savoirs locaux associés à ces milieux-là. Voilà.
Alors, quel territoire avez-vous choisi ?
J'ai monté mon propre sujet de master et j'ai réussi à le faire financer, comme c'est le cas aussi pour la thèse. Et donc, je suis partie à ce moment-là au Vietnam, dans un endroit qui a été fortement affecté durant la guerre, qui a été bombardé et il y a eu l'agent orange qui a été déversé. Il y a une catastrophe écologique qui a eu lieu et les gens se sont mis à replanter la mangrove. Moi, là-dedans, je voulais étudier comment ça s'était passé et s'il y avait une transformation importante de la composition floristique de la mangrove avant et après la guerre. Donc ça, c'était le premier choix. Et pour l'Indonésie, c'était savoir locaux et indicateur de biodiversité. Et c'est là, ouais, c'est là que j'ai choisi donc un terrain en Indonésie pour faire mes études, qui avait trois choses importantes. Une mangrove en très bon état, une population indienne et trois, une réserve de biosphère. La réserve de biosphère, c'est un label donné par l'UNESCO pour essayer de faire des réserves où on laisse toujours une certaine activité humaine. Donc on n'extrait pas les populations de ces endroits. Ce n'est pas une réserve complètement fermée à la population et aux activités humaines. Donc je voulais voir ça aussi.
Et comment s'appelle la population chez qui vous avez vécu ?
J'ai choisi l'île de Siberut, dans l'archipel de Mentawai. Et donc c'est le peuple Mentawai, c'est un peuple austronésien. Que si on recherche des photos sur Internet, la première chose qui va apparaître, c'est des gens complètement remplis de fleurs de la tête aux pieds, habillés avec des feuilles. Et c'est un peuple qui, bon, une grande partie de la population de Siberut a été centralisés dans des villages. Donc ils ont été sortis de la forêt sous une initiative gouvernementale. Donc ils se sont bien attachés à un autre mode de vie actuellement. Mais ils sont toujours très très dépendants de la mangrove et ils font toujours autant de fêtes et de cérémonies. Et il y a un syncrétisme entre les religions avec le regard animiste. Ça se manifeste beaucoup dans les cérémonies où on va entendre des chants très typiques combinés avec des chants religieux catholiques parfois. Donc là, ce qu'on entend, c'est les bruits que font les pieds avec le sol qui est en bois. C'est les pieds des Sikerei qui sont les médecins traditionnels. Lorsqu'on fait des cérémonies, on va appeler des esprits. Et ils rythment ça avec aussi leurs pieds. Et il y a un tambour et 12 autres instruments qui sont utilisés par trois personnes qui ne sont pas vraiment des médecins traditionnels.
Vous, concrètement, qu'est-ce que vous étiez allé chercher là-bas ? Qu'est-ce qui vous intéressait ?
Ce qui m'intéressait, c'était comment les populations vivaient donc de cet écosystème. Quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que tout d'abord, c'était notamment les femmes qui utilisaient la mangrove, qui allaient chercher les poissons, qui allaient chercher les crabes, qui allaient chercher les coquillages, et que les hommes, ils étaient plus dans des autres types d'écosystèmes. Donc c'était parfait pour moi, parce qu'en étant femme, c'était plus facile de m'intégrer, disons, et de voir comment les femmes faisaient ces activités dans la mangrove. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de savoirs, tellement de connaissances relatives aux espèces végétales, relatives aux poissons, relatives au climat, aux saisons, à l'eau, à la marée. Et ça devenait pour moi quelque chose. Je ne savais pas comment prendre ma thèse. Et en plus, en étant en mission d'histoire naturelle, une chose qui m'intéressait beaucoup, c'était de donner des noms aux espèces que j'ai trouvées. Donc mon terrain, c'était un très très long terrain. Je suis allée donc, en tout durant ma thèse, c'était trois fois. Cette société sur la mangrove, elle est tellement large qu'il fallait que je choisisse un sujet parce que sinon je n'allais pas m'en sortir. Donc j'ai choisi de me spécialiser notamment sur la collecte de coquillages qui m'a paru la plus abordable parce que malgré que ce n'était pas la ressource primaire qu'on utilisait, c'était une ressource qui était toujours là, présente. Que tu voyais toutes ces femmes porter des paniers de coquillages dans leur dos et ça commençait à m'intriguer. En plus, je trouvais les coquillages très belles. Donc, je me suis dit, bon, je vais simplement collecter mes coquillages pour pouvoir voir si j'arrive à leur donner un nom. Et je vais m'intéresser aux coquillages. Et je vais voir de là comment je peux aborder la mangrove. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être avec les femmes dans la cuisine, à voir ce qu'elles ramenaient. Bien sûr, tout de suite, j'ai voulu participer dans ces activités dans la mangrove, faire la pirogue et sortir au jour le jour. Voilà.
Alors, suite à ces années et ces nombreux séjours, vous avez soutenu votre thèse ? en 2013. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de toutes ces multiples expériences dans différentes mangroves du monde, entre le Vietnam, le Sénégal, l'Indonésie, après je sais que vous êtes parti aussi en Papouasie. Quel enseignement avez-vous tiré de tout ça ?
Et en fait, il y a des liens très très intéressants pour faire entre ces peuples-là. Moi, ce qui me dérange le plus dans ma recherche, c'est ne pas pouvoir amener les gens que je rencontre dans un pays, les amener dans un autre, pour pouvoir leur montrer et partager avec eux les différentes choses qu'il y a d'un endroit à l'autre. Par exemple, je trouvais qu'il y a des savoirs locaux pour la plantation des mangroves du Vietnam et du Sénégal. Les Vietnamiens sont très forts pour planter la mangrove, depuis très longtemps. Là, il y avait énormément de savoirs locaux à faire passer, des stratégies de plantation qui auraient été très intéressantes de promouvoir au Sénégal, qui n'a pas été le cas. Et mon envie, c'est vraiment d'intégrer ces savoirs locaux dans des projets de suivi écologique. Créer une complémentarité entre savoirs locaux et savoirs scientifiques. Si on arrive à les lier, on aurait des regards transversaux et l'intégrer vraiment dans des projets de suivi de l'environnement.
Le monde est un campus. Une émission de Céline Duchesnay sur France Culture Plus.